de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le président Joko Widodo qualifie 2024 d'année pleine d'optimisme ». Les Philippines soulignent le dialogue avec la Chine sur fond de tensions en mer de Chine méridionale. L'ambassadeur de France visite le campus polytechnique du tourisme Makassar pour explorer la coopération. La fête des mères est un moment pour réveiller la mémoire collective des femmes. L'Union européenne est prête à participer à la coalition de sécurité de la mer Rouge. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le président Joko Widodo est optimiste quant aux conditions économiques en Indonésie en 2024. Dans les perspectives économiques de l'Indonésie pour 2024, au Saint-Régis, Jakarta vendredi, le président a désigné 2024 comme une année pleine d'optimisme parce que l'Indonésie a la capitale pour être optimiste. J'appelle 2024 une année qui doit être pleine d'optimisme. Pourquoi? Nous avons le capital pour être optimiste, à la fois capital économique et capital politique. Le président Joko Widodo a ajouté que tout au long de 2023, l'économie indonésienne connaît une croissance d'environ 5%, bien plus que la moyenne mondiale qui ne croît que 2,9%. L'indicateur d'inflation peut également être maintenu à 2,86%. Ce chiffre est bien inférieur à l'inflation moyenne mondiale qui a atteint 7,2%. Le président a également mentionné l'augmentation rapide de l'absorption de la main-d'œuvre ainsi que le commerce qui a connu un excédent pendant 33 mois consécutifs. Cependant, le président a également rappelé à toutes les parties d'être vigilantes car il y a encore beaucoup d'incertitudes globales qui se produisent. Le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, a déclaré jeudi 21 décembre dans un communiqué qu'il avait eu un dialogue franc et ouvert avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Manalo a également déclaré que les deux parties avaient une compréhension plus claire de la position de chacun sur un certain nombre de questions. Manalo a ajouté que la Chine et les Philippines ont chacune souligné la nécessité de recourir au dialogue pour résoudre les problèmes entre les deux pays dans un contexte de tensions en mer de Chine méridionale. La Chine et les Philippines ont des revendications qui se chevauchent en mer de Chine méridionale. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs affrontements impliquant des bateaux de pêche, navires militaires et autres navires. L'ambassadeur de France en Indonésie, Timor-Leste et ASEAN, Fabien Penon, a visité le campus polytechnique de tourisme de Makassar, Sulawesi du Sud, jeudi, pour explorer la coopération. L'ambassadeur Penon a déclaré à cette occasion qu'il y avait de nombreux programmes que l'ambassade de France peut collaborer avec ce campus de Makassar. L'un d'elles est lié à la possibilité d'envoyer des étudiants de ce campus de Makassar pour effectuer des courses de courte durée en France. L'ambassadeur de France a également présenté l'activité Semaine de la gastronomie française organisée par l'ambassade de France, Institut français et Bassines France. L'objectif de l'activité est de promouvoir la richesse et la diversité de la gastronomie française et ses valeurs en Iran, telles que l'hospitalité et le plaisir. L'ambassadrice des archives nationales Rike Diah Pitaloka a déclaré que la commémoration de la fête des mères, le 22 décembre 2023, est en élan pour construire une mémoire collective sur les femmes, qui est mise en œuvre à travers la création des archives du modèle de développement national planifié universel, ou PPNSB, en tant que mémoire du collectif de la nation. Rike à Jakarta jeudi cité par Antara 10 ans, grâce aux archives du PPNSB, l'Indonésie peut avoir une mémoire collective de la lutte des femmes pour défendre l'indépendance. Rike invite également les femmes à continuer de se joindre aux hommes pour contribuer dans les espaces publics et politiques à lutter pour une Indonésie meilleure, juste et prospère. Le 22 décembre en Indonésie est célébré comme la fête des mères. Cette date fait référence au premier congrès des femmes, le 22 décembre 1928. L'Union européenne est prête à apporter une contribution à la coalition maritime dirigée par les États-Unis pour la sécurité de la mer Rouge après que les Houthis ont attaqué des navires commerciaux en mer. Lors d'une réunion extraordinaire du Comité politique et de sécurité, les pays de l'Union européenne ont convenu de contribuer à l'opération de sauvegarde de la prospérité menée par les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, via X jeudi. Borrell qualifie les actions irresponsables des outils de menace à la liberté de navigation en mer Rouge. Le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, a annoncé que la Grèce enverra une frégate pour participer à l'opération menée par les États-Unis en mer Rouge, a déclaré la chaîne de télévision ERT. Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé plus tôt cette semaine la création d'une force opérationnelle navale multinationale pour contrer les attaques des outils contre les navires commerciaux en mer Rouge. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Chine et Philippines conviennent de résoudre les tensions en mer de Chine méridionale par le dialogue ». Vous êtes avec moi, Audrey. Sur Twitter, la semaine dernière, un grave incident a impliqué des navires chinois et philippins. Les navires des gardes-côtes chinois ont tiré à plusieurs reprises avec des canons à eau pour bloquer les navires philippins transportant des fournitures vers la Sierra Madre, à savoir un navire de transport qui aurait été délibérément coulé pour devenir un avant-poste militaire et occupé par des marines philippines en mer de Chine méridionale, une zone revendiquée par la Chine, les Philippines, Brunei, le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie. À la suite de l'incident, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré qu'un changement de paradigme était nécessaire dans la manière dont son pays gérait la question de la mer de Chine méridionale, car les efforts diplomatiques avec la Chine allaient dans la mauvaise direction. Marcos a déclaré que les Philippines continueraient à mener des négociations avec leurs partenaires de la région Indo-Pacifique et à adopter une position commune concernant leur responsabilité dans la mer des Philippines occidentales. Cette déclaration du président des Philippines montre que la situation se détériore dans les relations entre les deux pays concernant la mer de Chine méridionale. L'incident survenu la semaine dernière pourrait potentiellement entraîner les deux pays dans un conflit ouvert s'ils ne s'ouvrent pas au dialogue. Heureusement, les deux pays ont finalement convenu de continuer à donner la priorité au dialogue pour résoudre les différends en mer de Chine méridionale. Le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'une conversation téléphonique mercredi 20 décembre 2023, ont convenu de donner la priorité au dialogue. Manalo a déclaré jeudi 21 décembre 2023 que lui et son homologue chinois Wang Yi avaient souligné l'importance du dialogue pour résoudre la question de la mer de Chine méridionale. Au cours de la conversation, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, cité par Channel News Asia, 21 décembre 2023, a rappelé aux Philippines de surmonter ce que la Chine considère comme de sérieuses difficultés dans les relations entre les deux pays concernant la mer de Chine méridionale par le dialogue. Récemment, les incidents entre navires des deux côtés se sont multipliés. Wang a déclaré à Enrique Manalo que si les Philippines jugeaient mal ou s'entendaient avec des forces extérieures mal intentionnées dans les eaux contestées, la Chine défendrait ses droits et réagirait fermement. De ces remarques, il ressort clairement qu'il existe des problèmes dans les relations entre les deux pays. Cependant, on espère que ni les Philippines ni la Chine ne reviendront sur leur engagement de donner la priorité au dialogue pour résoudre les différends. Bon, cher Jolétard, c'est tout le commentaire.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « L'histoire d'aujourd'hui ». Nous commençons avec l'événement de 22 décembre et la fête des mères en Indonésie. En Indonésie, le 22 décembre est célébrée la fête des mères. Cette date est prise à partir du jour d'ouverture du premier congrès des femmes indonésiennes, le 22 décembre 1928. Ce congrès s'est tenu à Yogyakarta en présence de plus de 30 organisations de femmes de 12 villes de Java et de Sumatra. Le Congrès des femmes indonésiennes à l'époque avait pour objectif d'améliorer les droits des femmes dans le domaine de l'éducation et du mariage. La mise en place du premier Congrès des femmes indonésiennes est considérée comme une étape importante dans l'histoire du mouvement national indonésien parce que les femmes se sont unies aux côtés des hommes pour lutter pour l'indépendance nationale. Le président Sukarno a ensuite désigné le 22 décembre comme la fête des mères par le décret présidentiel numéro 316 de 1959, signé le 16 décembre 1959. Cette année, le thème de la fête des mères en Indonésie était « Femmes autonomisées, l'Indonésie avancée ». Le 22 décembre 1948 est la création du gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie. Le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, ou PDRI, était un gouvernement indonésien en exil formé de 1948 jusqu'à 1949. Le PDRI a été formé après que les Néerlandais ont occupé Yogyakarta, la capitale temporaire de l'Indonésie. Lorsque les Néerlandais occupaient encore Jakarta pendant la guerre d'indépendance indonésienne. Peu avant que le président et vice-président indonésien de l'époque, Sukarno et Mohamed Hatta, ont été arrêtés par les Néerlandais le 19 décembre 1948, ils ont donné le mandat à Syafruddin, Prawira Negara, de former un gouvernement temporaire. Syafruddin et d'autres personnalités républicaines fondaient le PDRI le 22 décembre 1948 à Bukit Tinggi, dans l'ouest de Sumatra, avec Syafruddin comme président. L'existence du PDRI a pris fin le 13 juillet 1949, après la conclusion de l'accord Rumroyan qui commençait à reconnaître la souveraineté indonésienne. À cette époque, Syafruddin a rendu son mandat à Sukarno et Hatta. Le 22 décembre 1989, la porte de Brandenburg est rouverte au public. Cette porte est un monument néoclassique de Berlin, la capitale de l'Allemagne, achevée en 1791. Cette porte a été construite sur ordre du roi de Prusse de l'époque, Frédéric Guillaume II, pour faire de la ville de Berlin le centre de pouvoir du royaume de Prusse. Après la Seconde Guerre mondiale qui a mis fin au régime nazi en Allemagne, la porte de Brandenburg a été placée dans la zone d'occupation de l'Union soviétique, qui est devenue plus tard l'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide. Cette porte était fermée au public parce qu'elle faisait partie du mur de Berlin, qui était fortement gardé par l'armée de l'Allemagne de l'Est, pour contrôler les mouvements de population à Berlin-Est. À la suite des révolutions en Union soviétique et en Europe de l'Est, à la fin des années 1980, les Berlinois des deux côtés de mur ont appelé à la suppression des restrictions à la circulation de la population dans la ville. Le 22 décembre 1989, la porte de Brandenburg a rouvert ses portes au public après que le chancelier ouest-allemagne Helmut Kohl ait franchi la porte pour rencontrer le premier ministre est-allemagne Hans Mudrow. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Yang sama, yang sama, padaku, saat ku mulai mencari.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulée « L'Indonésie exporte 42,3 milliards de dollars de produits halal jusqu'en octobre 2023 ». Le ministère du Commerce a déclaré que les produits halal indonésiens qui étaient exportés ont atteint 42,3 milliards de dollars américains, tandis que la valeur des produits halal importés a atteint 11,1 milliards de dollars américains entre janvier et octobre 2023. Cité par Antara 19 décembre, le directeur général du développement national des exportations au ministère du Commerce, M. Didi Soumedi, lors de la publication des performances des exportations de produits halal de l'Indonésie à Jakarta, a déclaré que le commerce indonésien en termes de valeur a connu une tendance à la baisse, mais en termes de volume, il y a eu une augmentation. Selon lui, la baisse de la valeur des exportations a été causée par une baisse du prix de matières premières et certains produits. Par rapport à l'année précédente, le commerce total de l'Indonésie en 2022 s'élevait à 75,49 milliards de dollars américains, soit une diminution de 16,35% par rapport à 2023. Il a déclaré que les exportations de produits halal sont soutenues par quatre secteurs différents. Premièrement, le secteur des aliments transformés, entre autres l'huile de palme, le poisson transformé, les pâtes, le cacao, le gaufre et les gaufrettes. Les principaux pays de destination sont la Chine, l'Inde, l'Amérique, le Pakistan et la Malaisie. Deuxièmement, le secteur pharmaceutique qui comprend les médicaments d'emballage au détail, les vaccins, les vitamines et les antibiotiques. Les Philippines, le Japon, Taïwan, le Nigeria et la Corée du Sud sont les principaux pays destination. Troisièmement, les exportations du secteur cosmétique comprenant des produits cosmétiques, des équipements de toilette, des parfums, des produits de soins de cheveux et shampooing, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis et les Philippines sont les principaux pays destinataires. Quatrièmement, le secteur de l'habillement musulman, y compris les maillots, chemisiers, pantalons, manteaux et t-shirts, exportés vers les États-Unis, le Japon, la Corée, l'Allemagne et le Canada. Didi Soumedi a également déclaré que la promotion des produits halal à partir du secteur des aliments transformés et des poissons tout au long de 2023 a été réalisée en participant à diverses expositions. Des promotions ont été réalisées, entre autres, à Taifex, à Nogra Asia en Thaïlande, au Malaysia International Halal Showcase, au Salon International du Café et du Chocolat à Riyadh et au Salon International des Fruits de Mer et de la Pêche en Corée du Sud. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Yeah.
semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des magazines culturels avec Maudry. Je vais vous présenter Mosquée Al-Irshad, icône du tourisme religieux dans la région de Bandung occidentale. Chers auditeurs, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Salahuddin Uno, a apprécié l'existence de la mosquée Al-Irshad dans la région de Kota Baru, Parahyangan, Padalarang, qui est pas seulement un lieu de culte, mais aussi une destination touristique religieuse de premier plan dans la région de Bandung occidentale. De manière unique, selon Santiago Uno, cette mosquée n'a pas de dôme, mais elle est super cool en termes de design et les visiteurs peuvent vivre une expérience unique, différente des autres mosquées lorsqu'ils prient à la mosquée Al-Irshad. Chers amis, la forme de la mosquée inaugurée en 2010 s'inspire de la grande mosquée et de la Kaaba de forme carrée. Une autre caractéristique unique de cette mosquée d'une capacité de 1500 fidèles est également visible depuis les murs de la mosquée. La grille des murs de cette mosquée est constituée de briques perforées qui forment deux phrases Shahada en lettres arabes. Habituellement, les mosquées n'ont pas de vue car les murs sont tout fermés. Dans cette mosquée, devant la place de l'imam, il y a une calligraphie d'Allah au-dessus de la piscine d'eau. La vue est ouverte et la vue est super cool. Chers amis, Santiago Uno a également invité tout le monde à venir profiter de la sensation de prière avec une vue extraordinaire sur la mosquée Al-Irshad. Selon lui, en visitant la mosquée Al-Irshad, les visiteurs peuvent pratiquer le tadabbur sur la nature, vénérer et glorifier le créateur de la nature. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Untuk hatiku di sisimu.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Ubud est une destination gastronomique mondiale, modèle » avec Maudry. Serge Littard, l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, OMT, a désigné Ubud, Gianyar et Bali comme modèle pour le tourisme gastronomique mondial. Le tourisme gastronomique mondial est un voyage lié à la nourriture comprenant de visites de producteurs alimentaires, des festivals et des démonstrations culinaires dans des destinations touristiques. La détermination du tourisme gastronomique d'Ubud est actuellement dans sa phase finale avec trois étapes, à savoir le diagnostic des problèmes, les techniques de développement gastronomique et les stratégies de mise en œuvre future. Chers amis, Djemadou a déclaré que le tourisme gastronomique mondial ne concerne pas seulement les questions culinaires, mais va plus loin, comme découvrir les traditions locales, la culture et surtout plus tard, le restaurant de l'hôtel servira une cuisine traditionnelle, du petit déjeuner au dessert. Il y aura des touristes étrangers et nationaux pour profiter de la gastronomie d'Ubud, parce qu'il existe un style traditionnel et local. Il est valorisé à travers cet écosystème gastronomique. Jusqu'à présent, les revenus du tourisme à Bali provenaient à 60% de la culture, à 35% de la nature et à 5% du tourisme artificiel. Pendant ce temps, le tourisme gastronomique représente 60%. Chers amis, Patricia Carmona, responsable de l'information sur le marché et de la compétitivité du tourisme à l'OMT, a déclaré que l'OMT était spécifiquement venu à Ubud pour créer le club du tourisme gastronomique. Ainsi, à l'avenir, ce qui a été commencé continuera à se développer et à devenir de plus en plus attrayant pour les touristes visitant Bali, en particulier Ubud. La raison pour laquelle Ubud a été choisi est qu'outre l'engagement de toutes les parties, Ubud est également soutenu par une culture forte qui inclut la transformation des aliments traditionnels différents du tourisme culinaire ordinaire. Le tourisme gastronomique offrira aux personnes intéressées une expérience plus approfondie des aliments et des boissons qu'ils dégustent. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Aku tak tahu hati ini harus menghindar. Ternyata hati tak sanggup melupa.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Madura intitulée Tanduk Majeng avec Maudry. Cherchez tard, la chanson Tanduk Majeng raconte l'histoire de la communauté côtière de Madurès qui travaille comme pêcheur. Soutenus par les vagues et enveloppés par le vent, les pêcheurs luttent pour attraper du poisson, pour subvenir aux besoins de leur famille, même si leur vie est en jeu. Cette chanson a été composée par R. Amiruddin Chitra Prawira. Le mot « corne » dans le titre de cette chanson signifie littéralement qu'elle vient du milieu de la mer, mais qu'elle n'a pas encore atteint le littoral. Pendant ce temps, « majeng » signifie l'activité de pêche. C'est ainsi que la femme et les enfants attendaient avec impatience que le pêcheur rentre sain et sauf et rapporte beaucoup de prises. Bon, chers joueurs, voici la chanson de Madura intitulée Tanduk Majeng. Bonne écoute! Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!